Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Elles ont osé, proposé par Les Échos. Elles ont osé et elles ont réussi. Elles, c'est nous. Nous, audacieuses, ambitieuses, résilientes, expertes, puissantes, courageuses, peu importe. Nous, telles que nous sommes, libres d'être nous-mêmes avec nos choix, nos actions, notre impact. Dans ce podcast, vous entendrez le regard croisé de deux femmes inspirantes qui ont su saisir les opportunités de la vie. Deux parcours, deux chemins qui forcément se croisent. Vous découvrirez leurs moments clés pour aller toujours plus loin, être à leur juste place, guidées par leur envie de contribuer à un monde meilleur. Merci d'être avec nous. Je suis Marie-Éloi, entrepreneure et présidente de plusieurs réseaux féminins, Femmes des Territoires, pour créer son entreprise, Bouge ta boîte pour du business avec du sens et Bouge ton groupe pour les femmes cadres et managers. Et aujourd'hui, je reçois deux musiciennes exceptionnelles qui, par leur parcours, leur ténacité, leur talent et leur recherche constante de l'excellence, ont ouvert la voie aux générations futures et qui, en parallèle, ont toutes deux choisi de faire revivre les musiciennes du passé avec audace. Bonjour Déborah Wallmann.
Bonjour.
Alors vous avez été nommée talent chef d'orchestre en 2008 et pendant 10 ans vous avez dirigé les plus grands orchestres en France et à l'étranger en tant que ce qu'on appelle chef d'orchestre invité. En septembre 2020, vous avez été nommée directrice musicale et chef permanente de l'Orchestre National Avignon-Provence. Vous devenez alors la première femme en France à diriger officiellement un orchestre national. Ça paraît incroyable évidemment que ce ne soit pas arrivé avant. Et depuis d'ailleurs, 3 autres femmes ont été nommées chef permanente d'un orchestre en France. Bonjour Marina Chiche.
Bonjour.
Alors vous êtes violoniste, soliste, virtuose, vous avez été nommée révélation en victoire de la musique classique 2 années de suite, en 2003, en 2004, vous étiez alors très jeune, 22 et 23 ans. Vous avez depuis donné des concerts dans le monde entier, vous êtes également productrice, animatrice sur France Musique, de l'émission hebdomadaire, vous avez dit classique, chiche, ainsi que des séries d'été, musicienne de légende. Et cette année, vous avez notamment co-présenté en duo avec Stéphane Bern les victoires de la musique classique. Ensemble, Déborah Wallmann, Marina Chiche, j'espère qu'aujourd'hui on vous donnera envie, à vous qui nous écoutez, de persévérer encore et toujours jusqu'à ce que votre talent soit devenu une telle évidence qu'il permette d'ouvrir la voie aux autres. Déborah Wallmann, on commence avec vous. Mm-hmm. Alors vous avez accepté de partager 2 moments clés, 2 jours où votre vie a basculé. Alors vous êtes née au Brésil, de parents musiciens, et votre mère a même créé son propre orchestre en Argentine. Et elle vous offre d'ailleurs la possibilité de le diriger dès l'âge de 17 ans. Vous avez fait vos études en Israël, études musicales, puis à l'Université catholique de Buenos Aires. Vous y obtenez 2 médailles d'or, 1 en direction d'orchestre et 1 en composition, ce qui n'était jamais arrivé dans toute l'histoire de cette université. C'est pas vous qui me l'avez dit, je l'ai lu dans les articles, vous ne l'avez pas dit. Le premier jour où votre vie bascule, Déborah, c'est lorsque les diplômes en poche, vous quittez tout pour l'Europe.
Oui.
Est-ce que vous pouvez partager ce moment avec nous ?
Oui, l'Europe, c'était pour moi un rêve depuis longtemps, puisque je suis née au Brésil, j'ai vécu en Israël, et puis en 14 ans, je suis un peu déracinée. J'ai atterri à Buenos Aires et je ne sais plus où je suis. Mon seule connexion à la Terre, c'était la musique, qui est donc devenue vraiment mon rêve et puis ma raison d'être absolue. Et qui dit musique classique dit forcément l'Europe, là où il y a la naissance de ce langage précieux. Et donc pour moi, l'Europe, c'était les rêves absolus à là où la musique se trouve, la vraie. Pas là où la copie en Argentine, mais la vraie. Et donc, quand je suis arrivée à Paris, pour moi, c'était bon. Enfin, je pourrais vraiment vivre pleinement mon rêve. Mais avant d'arriver à Paris, j'ai fait une escale par Barcelone parce que je savais pas parler français du tout. Et donc, j'avais une appréhension. Je me suis dit, bon, d'abord, je mets un pied en Europe et puis après, je pourrais la conquérir, entre guillemets. Et en fait, les choses se sont déroulées rapidement. J'ai atterri à Barcelone. Après un mois, il y a une copine qui m'appelle. Il m'a dit qu'un appartement se libère à Paris. Et donc, j'y vais tout de suite.
Vous avez 23 ans.
J'ai 23
pas
ans.
Pas un mot de français.
pas un mot de français. Et j'ai dit, c'est pas grave, je veux l'apprendre. Parce que je me souvenais que quand je suis arrivée à Buenos Aires, en 3 mois, j'ai parlé à peu près. Donc, j'avais vraiment pas cette peur d'apprendre les langages. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, les choses se sont enchaînées, atterri dans une chambre des bonnes, et j'ai travaillé un peu comme serveuse, j'ai connu dans les restaurants les gens qui m'ont donné travail dans la musique, c'était magique, tout s'est enchaîné vraiment. Pour moi, Paris, c'est magique.
Et là, vous rencontrez?
Et après, donc, puisque j'étais à Paris, il y avait les grands niveaux mondiaux de la musique classique. J'étais voir les répétitions des grands maîtres. Et une fois, j'étais donc voir Kurt Mazur. Et dans la salle, il y avait les assistants qui m'ont dit que bientôt, il y aura un autre concours.
Kurt Mazur, qui était le maestro de l'Orchestre National de France, hein, extrêmement reconnu.
Oui, il était aussi à New York et bien sûr à Leipzig avant. Et cette période nationale, pour lui, c'était comme un couronnement. Il était entre vraiment le début d'année 2000 et jusqu'à 2010, par là. Et en fait, donc, j'ai passé ces concours. Et ça s'est très bien passé, je l'ai eu. Et là, encore une autre étape s'ouvre, puisque maintenant, je suis un petit apprenti des grands maîtres Kurt Mazur, plus tous les autres chefs invités.
Donc pendant 3 ans, vous êtes ce qu'on appelle son assistante.
Voilà.
Arrive le deuxième jour où votre vie change. Deborah Vanman, ça fait 10 ans que vous êtes chef d'orchestre, invitée un peu partout dans le monde. Et en 2019, vous postulez au poste de chef d'orchestre permanent de l'Orchestre National Avignon-Provence et on connaît la suite. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment-là?
Oui, donc pour moi, c'était mon 4e concours en France. C'est vrai que...
Donc vous essayez à chaque fois de devenir chef permanente, c'est ça?
Oui, parce que chef permanent, ça veut dire qu'on n'est pas juste une semaine invité, on est là pour 3 ans, donc on a une vision beaucoup plus globale, stratégique, de diffusion, artistique. On est décideur sur la programmation, ça c'est très précieux. Et donc, je voulais absolument avoir une place comme ça. On dit dans l'aviation, c'est qu'on monte en palier, n'est-ce pas? Pour moi, c'était ça, être chef permanent. Donc, je me suis présentée là où il y avait de la place. Et à Avignon, il y en avait une.
Et sans vous poser de question de légitimité, il fallait que vous l'ayez? C'était vraiment normal pour vous?
Je me suis dit, à un moment, je l'aurai, parce que j'ai fait 3, 4, 5, à la 10e, je l'aurai. Ça arrive à tous les instrumentistes, il y en a qui passent 23 concours avant de l'avoir. Donc, pourquoi pas, je voyais pas surnaturel le fait de l'avoir. Voilà.
Vous étiez prête à essayer 23 fois?
Oui. Mais il fallait réussir à un moment. C'est sûr. Et donc là, je me suis vraiment creusé la tête sur un projet et puisque j'avais déjà passé 4 fois, voilà, donc j'avais un peu rodé mes idées. Et je pense que c'est mon projet qui l'a emporté cette fois-ci. Vraiment, c'est le projet qui a été le plus convaincant, parce que j'ai eu les retours des jurys. Et là, quelques mois après la nomination, je découvre qu'apparemment, c'était la première fois qu'une femme est nommée à la tête d'un orchestre permanent.
En France.
En France, voilà.
Alors que dans d'autres pays, ça existe depuis bien plus longtemps. En Allemagne, depuis 10 ans. Et votre orchestre compte 40 musiciens à Avignon, mais ça peut monter jusqu'à 100 ou 120 musiciens.
Oui, ça dépend des formations. Mon orchestre, quand on fait 120 musiciens, c'est qu'on se retrouve avec d'autres orchestres. Sinon, ça coûte trop cher.
Marina Chiche, à vous. Alors, vous êtes née à Marseille. Vos parents sont de grands mélomanes. Tout va très vite pour vous. À 3 ans, vous avez un coup de foudre pour le violon. À 4 ans, vous entrez au Conservatoire de Marseille. À 16 ans, vous êtes admise comme première nommée par le Conservatoire supérieur de musique, où vous obtenez 4 prix, dont celui du violon. En parallèle, vous décrochez une licence de littérature allemande, puis un doctorat en art. Vous perfectionnez votre violon à Vienne, à Munich, vos premiers disques paraissent. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez été nommée, je l'ai dit, très jeune, révélation aux Victoires de la musique classique. La lumière est donc bien sur vous, le chemin semble tout tracé. Et en 2009, vous êtes dans un train de retour d'un concert en Allemagne et vous décidez de quitter ce chemin bien bordé.
Oui, c'est un moment comme on peut en avoir dans une biographie où, selon la manière de percevoir la chose, on se dit que c'est une fracture. C'est donc je suis dans un train de retour d'un concert en Allemagne où j'ai joué avec des musiciens allemands. Et c'est vrai que j'ai ressenti quelque chose de très différent par rapport à mes concerts habituels en France où je suis comme vous l'avez décrit, sur cette lancée après la nomination aux Victoires de la musique et beaucoup d'apparitions médiatiques à la radio ou à la télé. Et le fait de jouer avec ces musiciens allemands qui me connaissent pas, qui ont pas d'a priori par rapport à qui je devrais être, qui je suis censée être. La collaboration se passe vraiment sur un niveau très profond, très artistique. J'arrive à exprimer des idées musicales, à débattre vraiment à un niveau qui, moi, me satisfait très profondément et je réalise que d'un coup, j'ai une révélation. Comme ça, je suis assise dans le train et je me dis, mais en fait, c'est ça. Il faut que je parte de Paris. Il est temps que je parte.
Vous étiez dans une case à Paris.
Voilà, c'est évidemment très complexe à analyser le pourquoi du comment dans ce genre de moment, mais j'étouffe, il y a quelque chose qui ne peut pas s'exprimer. Et sans doute, c'est cette tendance qui peut arriver à beaucoup de gens d'être mis dans une case. Et donc, il y a plein de parties de ma personnalité et puis de mon envie artistique qui ne s'exprimait pas à cette époque-là. Et donc là, ça s'impose à moi, il faut partir. Et l'idée qui me traverse, je me dis, soit je pars en Allemagne, donc à Berlin par exemple, soit il faut que je parte en Asie. L'été précédent, j'avais fait ma première tournée au Japon, qui avait été une expérience exceptionnelle. Le public est tellement réceptif à la musique classique. En plus, j'adore le Japon, j'avais commencé à apprendre le japonais. Donc je me voyais déjà partir en Asie ou à Berlin. Et là, alignement des planètes, et puis serendipity, comme on dit en anglais, un professeur d'université américain, donc professeur de violon, m'appelle, puisqu'il m'invitait dans son festival en Chine, et il m'appelle pour confirmer des détails de logistique. Et là, comme dans ces moments où on ne sait pas pourquoi, on se confie à quelqu'un alors qu'on n'est pas spécialement intime ou spécialement proche. Et là, je commence à lui raconter ça. Je ne sais absolument pas pourquoi je me décide à lui raconter que voilà, je suis portée par cette envie de partir, mais je ne sais pas où. Et là, il me dit, mais c'est dingue, il y a une semaine, j'ai parlé avec une collègue qui est professeure à l'université de Taipei, université de musique.
À Taïwan,
et elle cherche, donc c'était une ancienne de la Juilliard School de New York, et elle cherche désespérément quelqu'un qui ait le calibre pour la remplacer. Est-ce que vous seriez partante pour aller à Taipei pendant un an? Et là, je m'entends dire, oui, bien sûr. Alors que, bon, je sais localiser Taïwan sur la carte, à la différence de beaucoup de mes amis à l'époque et encore maintenant. Mais en tout cas, je n'ai aucune attache, je n'y suis jamais allée. Et puis moi qui suis dans mes délires d'apprendre le japonais, la seule chose qui me contrarie, je me dis, ah ben zut, il va falloir que j'arrête un peu le japonais pour apprendre des rudiments de mandarin. Voilà. Mais je lui dis oui. Et quelques mois plus tard, donc à peine 6 mois plus tard, le temps de finir l'année, de liquider un peu mes affaires, je me retrouve dans l'avion et puis à l'aéroport de Taipei un petit matin avec ma valise, elle était violette, je m'en souviens encore, ma valise et mon violon. Partie pour un an dans un lieu que je ne connaissais pas.
Et une expérience magnifique. Deuxième moment où votre vie bascule, Marina Schisch, cela fait 7 ans que vous vivez à Berlin, donc après Taipei, Berlin. Vous avez étudié la musique ancienne. Et depuis 5 ans, vous êtes même enseignante à un poste très élevé en Allemagne, une carrière très enviée, confortable, un statut de fonctionnaire à vie. Et là, la France vous manque, rebelote, à nouveau, vous quittez tout.
Oui, donc là, j'ai obtenu mon doctorat en art. Je suis professeure d'université, donc dans une Hochschule allemande. C'est des postes très enviés, qui sont très bien rémunérés. C'est vrai que le statut d'enseignant en Allemagne, enseignant de la musique, est très valorisé. Donc je suis Frau Doktor, professeur Doktor Schisch, donc ça en jette. Et puis je m'épanouis beaucoup dans cet enseignement, en parallèle de mes concerts. Donc ça fait déjà un emploi du temps très très chargé. Mais voilà, à un moment où je suis convaincue d'être très intégrée en Allemagne, d'avoir donc ce statut de fonctionnaire, hein, c'est un peu absurde, mais c'est en tout cas il est bien là, et cette reconnaissance, je me ressens profondément comme globe-trotteur, et puis bam, par des circonstances aussi familiales, je ressens que ben Berlin c'est loin. Et qu'il y a peut-être aussi un plafond de verre culturel qui fait que, malgré tout, après 7 ans, bah, je rencontre cette chose qui fait que, voilà, je suis française en Allemagne, je suis pas une Allemande. Et la France me manque, mais de manière totalement irrationnelle. Et je me dis, mais il faut que je rentre. Et là, par encore un alignement de planètes, totalement par hasard, donc je passe à Paris. Et une connaissance liée à ma famille me parle d'un appartement qui se libère. Et puis, les choses se calent tellement bien que je dis, du jour au lendemain, je lâche mon appartement à Berlin, je rentre à Paris. Et très rapidement, moins de 6 mois après, il devient clair que je vais lâcher aussi mon poste, ma professeure, comme on dit, mon poste de prof en Allemagne, un poste qui ne se quitte pas. Donc j'ai
Il y a grand monde qui vous comprend à ce moment-là.
Mes collègues, je pense qu'il y en a encore qui n'en sont pas revenus. Et j'ai même rencontré beaucoup de résistance. Ça, c'est intéressant aussi. Quand on prend le choix de partir, on prend un choix qu'on peut qualifier d'audacieux, peut-être même des fois de potentiellement très dangereux. Et en fait, j'ai pas rencontré du tout de soutien. Au contraire, j'ai rencontré une résistance des gens qui restent. Donc ça, c'était très intéressant comme moment. Mais pour autant, pour moi, l'évidence était là. Le choix s'était imposé du jour au lendemain. Vous savez, ces moments où d'un coup, ça bascule, le tipping point. Et là, je rentre en France et puis je lance un blog. Donc là, moi qui déteste les réseaux sociaux à cette époque-là, je suis sur le point de tout fermer. Et par chance, la chance des algorithmes aussi, hein, je vois passer une annonce sur Internet d'une formation en ligne sur des questions de marketing digital et de réseaux sociaux. Exactement au moment où moi, je voulais fermer tous mes réseaux sociaux. J'en parle avec des amis qui travaillent dans le digital et qui me disent, tu sais, les réseaux sociaux, c'est une tribune exceptionnelle. Tu ne dépends de personne, en tout cas dans un premier temps. Réfléchis et le meilleur investissement que tu puisses faire, plutôt que d'essayer de payer un community manager, eh ben, c'est de te former. Et là, rencontre magique, Alexandre Dana de Live Mentor, que j'ai au téléphone et qui, en une minute, me dit 90% de la formation ne te concerne pas, mais 10%, c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses. Tu vas prendre la plume, tu lances un blog et tu crées une communauté. Bam.
Et c'est comme ça que tout a commencé
à
nouveau.
Et là, ça a enclenché une prise de parole. À nouveau, je me suis rendue visible en France, là où des gens se souvenaient quand même de mes nominations Victoire de la musique, mais m'avaient perdue et j'étais sortie des radars. Et d'un coup, les choses se sont enchaînées avec beaucoup de travail, bien sûr, derrière, parce qu'il faut écrire un article une fois par semaine. C'est un boulot dingue de copywriting. C'était très, très stimulant. Et puis de là, les choses se sont enchaînées. J'ai écrit pour le magazine Transfuge. France Musique est arrivée. Enfin, voilà.
Déborah Wallmann, Marina Schiff. Déborah, je vous vois réagir.
J'ai impressionné.
Réciproque.
Je crois que c'est réciproque. Oui. Déborah Wallmann, Marina Schiff, vous ne vous étiez jamais rencontrées avant aujourd'hui.
En vrai, non, on n'a pas encore eu l'occasion.
Et pourtant, vous avez plusieurs points communs dans vos parcours hors normes. Vous faites partie des rares musiciennes à avoir atteint ces niveaux de reconnaissance. Et pour y parvenir, on commence à l'entendre, vous avez dû créer vos propres chemins, des chemins alternatifs, votre propre orchestre pour vous, Déborah, vos propres sources de transmission pour vous, Marina. Vous travaillez également toutes deux à donner davantage de visibilité aux femmes musiciennes oublié. Et tout ça avec une maîtrise et un leadership impressionnant. Je vous propose d'échanger sur ces sujets en regard croisé avant de terminer par un portrait chinois. Très rapidement, toutes les deux, est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez atteindre les plus hauts niveaux dans vos domaines respectifs? Est-ce que c'était vraiment ancré dans les tripes, Déborah?
Pour moi, je pense que oui. Au départ, c'est-à-dire quand j'étais petite, je pensais que la musique était trop dure et que je ne pourrais pas en faire. Oui, parce que c'est beaucoup de travail. Et tant qu'un enfant, des fois, et ma mère ne me faisait pas travailler. C'est moi qui étais petit à petit, mais quand j'avais envie, quand j'avais pas envie. Et en fait, le déclic, donc, était en Argentine. Et c'est là que j'ai pensé, quoi qu'il soit que je fasse, je voudrais arriver au plus haut niveau, de toute façon. Donc, c'est la musique.
Et vous, Marina?
Oui, alors moi, c'est un peu différent parce que pour le coup, mes parents étaient très là et ma mère m'a beaucoup, on va dire, poussée, mais encadrée. Donc, moi, pour le coup, c'était pas une option que je ne travaille pas. mais ça, c'est une valeur qui m'a été transmise, pas que dans le violon. C'était exactement aussi ce que vous disiez, Déborah, c'est que quoi que je fasse, il y avait cette idée de faire au mieux, de faire bien et d'élargir en fait ses compétences, ses capacités, etc. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai transporté un petit peu dans toutes les disciplines, cette envie d'excellence.
Déborah, dans une interview au journal La Croix, vous précisez avec humour que la seule difficulté que m'évalue le fait d'être une femme est une carrière qui évolue deux fois moins vite que celle de mes collègues masculins. Aujourd'hui, chez les étudiants en musique, il y a, je crois, à peu près autant de femmes que d'hommes. Mais au final, il n'y a plus que 4% de femmes chefs d'orchestre, c'est-à-dire 96% d'hommes. Quand avez-vous réalisé que dans votre parcours, vous étiez souvent la seule femme ?
C'était vraiment après la nomination, parce que même dans des concours, je me souviens, donc il y a 15 ans, et aujourd'hui, quand je regarde les photos, je vois, tiens, on est 20 et je suis la seule femme. Mais j'ai pas réalisé à l'époque, c'est dingue. Parce que pour moi, l'essentiel, c'était autre chose, évidemment. Et même tous mes modèles à l'Orchestre National de France, c'était que des hommes, et j'ai jamais posé la question. Est-ce que c'est possible qu'il y ait une femme de ce niveau-là qui vient comme un maestro ? Donc, vraiment, c'était après la nomination que j'ai réalisé qu'en fait, c'était à cause de ça, parce qu'avant, c'était impossible. Maintenant, c'est possible.
Et c'est pour ça que derrière, il y a eu des femmes aussi qui ont pu suivre ce chemin. Vous réalisez que vous ouvrez la voie aussi ?
Oui, et je réalise qu'il y a une vraie volonté politique, d'ailleurs, de l'État, de mettre ce métier pour les femmes en valeur. Donc là, je pense que la porte est ouverte. Et il n'y a qu'à s'épanouir dans les talents.
Et qu'est-ce que ça a changé pour vous d'être nommée chef permanente ?
Ça fait que j'ai une vision, donc avec un groupe qui est les mêmes pendant 3 ans. J'ai une vision à plus long terme, ça c'est vraiment gratifiant. Je peux me projeter avec eux artistiquement, humainement. Je peux vraiment aboutir mes rêves que depuis longtemps, j'ai pas pu. Et là, par exemple, avec du confinement, il y a eu beaucoup de projets qui ont été annulés. Pour moi, c'était en fait, j'ai sorti tous mes rêves, qui étaient même mes bibliothèques avec des compositrices, qui personne voulait jamais jouer. Et là, on m'a dit non, vous faites pas du Schumann, vous faites pas du Tchaïkovski avec l'Orchestre d'Avignon. Super, alors je vais faire des choses que j'aime, que des compositrices inconnues. Et on a passé l'année à jouer des compositrices.
Fantastique. Et vous, Marina, vous aviez partagé cela lors de notre événement Sing Bigger à la Station F l'année dernière avec 1000 dirigeantes des territoires. Quand est-ce que vous avez réalisé que vous étiez bien souvent la seule femme ? C'était lors d'une croisière, je crois.
Oui, c'est quelque chose dont je n'avais pas du tout conscience quand j'ai grandi. Pour moi, je me suis toujours perçue comme une violoniste, pas comme une femme violoniste. Et je pense que Déborah, vous partagez la même sensation. Et pour autant, donc, je me retrouve dans cette croisière musicale et il y a des interviews tous les jours d'un de nous. Et quand arrive mon tour, déjà, je me rends compte que je suis la seule femme interviewée, puisqu'en fait, je suis la seule femme à part entière à être programmée dans cet événement-là.
Donc vous êtes sur scène ?
Et donc, je suis sur scène et donc il y a une interview et le journaliste qui me pose des questions me dit « Mais quand même, c'est assez rare d'interviewer une femme soliste. Et puis bon, déjà, les femmes sont plus souvent en cuisine. » Donc là, le sexisme officiel. Donc la salle explose. Toutes les émotions traversent cette salle du public un peu atterrée. Et surtout, il enchaîne en disant « Mais oui, parce que quand même, être une femme, les salles sont grandes. Alors la puissance sonore, ça doit être difficile quand on est une femme. » Donc ce qui est complètement absurde, en plus avec un instrument comme le violon, qui est un petit instrument. Donc la question de la puissance sonore, on n'a pas besoin d'être bodybuildé, bien au contraire, pour avoir une sonorité puissante. Donc cette association, ces connotations de puissance, donc virilité, donc genre, c'est vraiment d'un autre temps, mais c'est profondément ancré encore.
Mais c'est pareil dans les mondes économiques, hein, et ces déséquilibres ont finalement des conséquences, j'imagine, aussi sur la musique, parce que finalement, la plupart de la musique qui est jouée, qui est composée, qui est écrite, par des hommes et le travail que vous faites justement de faire réémerger ces femmes, on va en parler tout à l'heure, ces femmes musiciennes, ça permet de rééquilibrer tout ça. Et c'est pareil dans l'économie, on est dans les mêmes chiffres. Du coup, Déborah, vous, face à ces biais, vous avez décidé d'agir, donc vous avez multiplié vos réseaux, vous nous raconterez, et puis vous avez même créé votre propre orchestre, Idoménéo, une vraie aventure entrepreneuriale.
Totalement. C'est au moment où j'ai compris, c'était à peu près en 2013, où je voyais que donc je réussissais pas, j'étais là pas où je voulais être en 2013. Et je me suis dit, je vais créer mon orchestre comme ça. Au moins, j'ai choisi les musiciens, j'ai choisi ce que je joue et c'est exactement ce que j'ai dans la tête comme directeur permanent. Et là, ça ouvre un autre chapitre. C'est vraiment une masterclass de management parce que nous, musiciens d'orchestre, on n'a pas appris ça. Musiciens tout court dans l'âme, on n'est pas trop dans ce sujet. Et j'ai donc appris à faire le budget, j'ai appris à les défendre, les idées artistiques auprès des administrateurs, parce que c'est eux qui donnaient l'argent auprès des mécènes. Et c'est vraiment un monde très complexe pour convaincre les gens que mon projet artistique doit exister.
Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de créer votre orchestre? Comment vous rappelez de ce moment-là et vous dites, bah, j'y vais, ok, c'est peut-être compliqué.
Oui, c'était vraiment dire, bah, moi aussi je peux. Alors là, après, quand on crée son orchestre dans le milieu classique, il y a beaucoup de créneaux. Donc il y a les baroqueux. Et moi, on m'a dit, mais non, il faut que tu fasses un ensemble baroque, ça cartonne. Et en fait, moi, je suis pas baroqueux parce que c'est pas ma veine. Et j'ai dit, non, moi, si j'ai fait un orchestre, ça sera vraiment un orchestre sur un instrument moderne. Et après, j'ai façonné artistiquement. Mais je voulais pas juste faire pour faciliter ce qui marchait dans les marchés, entre guillemets. Parce que les baroques, souvent, c'est des petites formations, donc c'est moins cher. Et c'est vrai que ça peut aller dans tous les festivals rapidement. Et il y a une poussée des ensembles baroques à l'époque, en tout cas. Donc, j'ai pris les chemins, comme d'habitude, les plus difficiles, mais les plus authentiques.
Je vois Marina qui rigole.
Oui, parce que je crois qu'on partage ça avec Déborah, que s'il y a deux chemins qui se présentent, eh ben, on sait lequel on prend.
Et il y a beaucoup de chefs d'orchestre, qu'ils soient femmes ou hommes, qui créent leur propre orchestre.
Oui, en France, on a beaucoup de possibilités de le faire. Donc ça, c'est très riche. Et donc oui, presque. D'ailleurs, avant d'être nommée, toutes les femmes que je connaissais créaient leur orchestre parce qu'elles n'avaient pas la place dans des orchestres permanents. Donc je peux citer Laurence Équilbet, Claire Gibault et plein d'autres. Simone Menez, qui ont tous créé leurs ensembles. Mais je vois aussi que donc les choses changent. Et que, comme vous avez dit, depuis 2019, il y a eu 3 autres nominations que la mienne. C'est énorme. Et je pense que ça va aller très vite, la nouvelle génération. Il y a plus de barrières, et surtout pour les décideurs. Et ça devient la même compétence. On n'est plus dans la situation des handicaps. Et ça, c'est précieux.
Et puis, une véritable aventure entrepreneuriale, on l'a dit, parce que c'est votre orchestre qui existe toujours. Hein, c'est oui. 40 musiciens, c'est environ 50 000 euros par concert à trouver.
Oui, aller convaincre et après, évidemment, rétribuer intelligemment, faire plusieurs concerts par production.
Alors Marina, vous, pour transmettre votre musique, votre expertise, vous avez créé, vous l'avez dit, votre communauté, et aussi vos propres sources de visibilité, donc le site internet, le blog, votre newsletter, vous avez aussi créé vos propres émissions sur France Musique. Est-ce que tout ça, c'était évident une fois que vous aviez commencé? Ou alors à chaque fois, il a fallu puiser dans votre légitimité? Comment vous avez fait?
Alors, j'ai un nom de famille qu'on utilise souvent d'ailleurs dans les émissions.
Chiche.
Et c'est vrai qu'il y a une dimension d'audace de se lancer, même si on ne sait pas encore, ou on pense qu'on ne sait pas encore faire. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans ma formation, il y avait beaucoup de transferable skills, donc ces compétences qu'on peut transférer d'un domaine à l'autre. Donc on parlait d'exigence tout à l'heure, de goût de l'excellence par rapport à une formation instrumentale, donc violonistique très poussée. Et ça donne une méthodologie très très puissante que j'ai aussi appliquée à l'école et après dans mes études.
Donc une rigueur aussi.
Oui, une rigueur, une force de frappe de travail. Je pense que Déborah partage aussi parce qu'elle est défricher des partitions, en même temps faire du multitasking par définition. Moi, j'ai été formée au multitasking. J'ai fait des cursus générales au lycée. En même temps, je faisais mon conservatoire. Je suis montée à Paris, conservatoire supérieur. Je faisais la fac par correspondance. Et ça, voilà, on se découvre en fait une trajectoire beaucoup plus outillée que ce qu'on pense. Et par contre, il faut des occasions pour se le révéler à soi-même. C'est là où peut-être le biais féminin, voilà, on doute, on n'est pas sûr. D'ailleurs, au passage, on se fait sous-payer parce qu'on ne sait pas encore qu'on sait. Et une fois qu'on est aux manettes, ben, en fait, ça se passe très bien. On fait sans doute même plus que ce qu'il faudrait. Et après, bon, voilà, il y a d'autres enjeux. Donc, on doit compléter avec des cours sur la négociation. J'ai fait une petite formation à la moisson, qui est une nouvelle... un nouveau programme pour des femmes, d'ailleurs, pour apprendre à négocier. Donc, voilà, il y a toutes ces choses un peu plus entrepreneuriales. Aussi des questions de management. Donc, en fait, c'est un learning process. C'est vraiment un processus d'à la fois comprendre tout ce qu'on a sous le coude, toutes ces richesses qu'on a accumulées, et vraiment les manifester.
Oui, l'argent, c'est vraiment le plafond de verre des femmes entrepreneurs heureux aussi, hein, c'est-à-dire négocier, mettre son juste prix. Et pour vous, c'est pareil.
Alors, pas pour les chefs d'orchestre, parce que c'est plutôt un niveau de reconnaissance. Si on est un artiste, pour les artistes en général, si on est très reconnu, normalement, les cachets sont pas moins bons que les artistes hommes. que je sache.
Alors, en fait, le oui et non, mais en tout cas, finalement, sur les cachets de concertistes, les choses sont plus établies, puisque là, il y a ce fonds de reconnaissance et de médiatisation. Mais c'est vrai que sur d'autres activités, la question se pose, même quand mes passages à la radio ou d'autres choses, des missions d'écriture, de transmission, de conférences, effectivement, la thématique se présente partout. Mais c'est vrai que ce qui me porte très très fort, c'est cette envie justement de transmettre des clés d'écoute, donc de transmettre la musique classique au plus grand nombre, et aussi de rendre visibles ces grands interprètes du passé. Parce qu'on nous dit qu'on manque de rôle modèle, de support d'identification, et en fait, on regarde dans le passé, et elles sont là, ces femmes exceptionnelles.
Alors justement, Marina, vous avez, ça fait plusieurs saisons que l'été, sur France Musique, vous faites revivre ces musiciennes, ces interprètes oubliées, inconnues des musiciens aussi, pas que du grand public.
Exactement.
Quel a été le déclic?
Alors j'ai eu un grand déclic, une rencontre exceptionnelle avec cette grande violoniste française, la grande violoniste française du XXe siècle, Ginette Neveu, qu'on présente toujours en faisant ce détour par un homme, qui est qu'elle est morte à 30 ans dans l'accident d'avion du Constellation, qui était l'avion dans lequel est aussi décédé le boxeur Marcel Cerdan. Donc quand je dis Ginette Neveu, je suis toujours obligée de faire un détour par un boxeur, Marcel Cerdan, monde Édith Piaf. Et donc en 2019, j'ai en contact avec France Musique, on a eu cette conversation. Alors tenez-vous bien, là je fais un petit détour, mais vous allez voir, c'est drôle, sur le foot. Parce que je suis marseillaise et j'adore le foot depuis petite, et puis l'équipe de France, etc. Donc je vous passe ce chapitre, mais... En 2019, il y a le championnat du monde de foot en France, féminin. Et j'ai cette conversation avec des amis en me disant, c'est fou. Enfant, j'ai grandi dans un milieu dont mes parents n'étaient pas musiciens. Et je me suis projetée violoniste, soliste. Et pourtant, pas une seconde, je me suis dit, tiens, je pourrais être footballeuse. Et en réfléchissant, je me suis dit, mais oui, il n'y avait pas de support d'identification pour me rêver. Mais je me suis dit, mais en violon? En fait, j'ai rêvé être un homme. Je voulais être Yasha Heifetz, je voulais être Yehudi Menuhin, comme je pense que Déborah Totalement. Voulait être Karajan, Furtwängler ou Carlos Kleiber. Et finalement, je me suis dit, mais, il y avait Ginette Neveu, que j'écoutais comme adolescente. Et il se trouve que c'était le 100e anniversaire de sa naissance. Donc, ça a donné justement lieu à une série d'étés qui a été passionnante pour moi, une espèce d'enquête avec un fort degré d'identification. Et j'ai commencé à ouvrir cette boîte de Pandore en me disant quelles étaient les femmes avant Ginette Neveu pour que déjà Ginette Neveu existe. Et là, ça a été une profusion de découvertes. Moi qui adorais déjà l'histoire des grands interprètes, d'un coup, j'ai été prise d'une forme de colère, de me dire... On ne m'a pas raconté ces histoires.
Oui, ça me parle parfaitement.
Et en fait, il y a des documents. Elles ont enregistré, elles ont été exceptionnelles de leur vivant. Elles ont d'ailleurs des discours incroyablement féministes. Quand on lit les choses, on se dit, mais ça a été écrit hier. Notamment Maud Powell, une américaine, il y a plus de 100 ans, qui écrit des textes, mais c'est incroyable. Sur la place des femmes, il n'y a aucune raison que les femmes ne soient pas au niveau des hommes, même si on n'a pas le droit de vote à l'époque. Enfin, voilà, et je me suis dit, mais moi j'ai besoin de les connaître, ces histoires. J'en ai besoin pour me projeter au présent et au futur.
Merci Marina. Déborah. Déborah, vous aussi, vous avez énormément travaillé là-dessus. Et je vous propose, avant d'en parler, d'écouter d'abord cet extrait.
Thank you.
Déborah Valman, il s'agit de la symphonie Grande Guerre de Charlotte Soye. Je vous vois toutes les deux très concentrées pendant l'extrait. De Charlotte Soye avec l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté au moment de sa création mondiale, votre création, hein, le 6 juin 2019. C'est une histoire incroyable, cette symphonie. C'est une composition oubliée que vous avez fait vivre grâce à une rencontre.
Oui, c'est en 2013 que j'étais invitée par Claire Baudin au festival Présence Féminine à Toulon, donc diriger un programme entièrement dédié aux compositrices, que j'ai trouvé ridicule parce que je connaissais aucun nom. Et en étudiant les partitions, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je ne le connais pas, puisque la musique est de bonne qualité. Et d'ailleurs, même à l'époque, j'avais pas un piano chez moi, j'allais travailler chez des voisins. Et un jour, je joue donc Charlotte Soye, c'était le thème varié pour violon, et il y a la dame qui est de la maison, la propriétaire, elle vient me dit « Mais vous jouez du Debussy ?» Et j'ai dit « Non, c'est un programme des compositrices. » Et donc, le petit-fils de Charlotte Soye était dans la salle lors du concert. Je lui ai dit que j'adore la musique de sa grand-mère et que s'il a d'autres, je serais très prenante. Et comme ça, donc, il m'envoie toutes les semaines des partitions. Elle a un petit opus de 30, mais beaucoup de mélodies, 30 opus seulement. Et donc, un jour, cette symphonie arrive. Je la parcours, je dis, mais c'est vraiment une très belle œuvre et je voudrais la jouer. Et
qui n'a jamais été jouée, hein.
C'est là qu'il me dit, bah, si vous allez la jouer, ça serait une création mondiale parce que ça n'a jamais été joué. Et là, je me pose d'autres questions. D'abord, donc, si les femmes que je connaissais pas, peut-être parce que leur musique n'était pas assez bonne et donc ils n'ont pas passé à l'histoire, mais si les femmes que je connaissais pas et que leur musique n'a jamais été jouée, peut-être c'est juste par ignorance qu'elles n'ont pas passé à l'histoire. Donc, je me mis en œuvre à vraiment faire la création de cette mondiale, de cette symphonie, 102 ans après l'écriture. Puisque donc, cette symphonie a été écrite en 1917, et pendant que le mari de Charlotte a été au front, à la guerre. Et donc, vous voyez, c'est un peu noir comme musique. C'est une symphonie vraiment autobiographique. Elle écrit ce qu'elle a vécu pendant cette guerre. Et puis, après, elle passe à autre chose. Son mari revient et elle écrit son opéra. Et du coup, c'est un peu évanoui dans elle. Elle voulait plus, je pense, toucher à cette charge émotionnelle qu'elle a mise dans cette symphonie. Et ça fait qu'elle est passée à autre chose. Parce que son opéra, elle a passé 20 ans pour pouvoir l'aboutir, alors que la symphonie, elle n'a pas fait le même effort.
Et ça veut dire quoi, une création mondiale? Ça veut dire des années d'efforts, de travail?
Et création mondiale, ça veut dire quand on fait pour la première fois la pièce. Par exemple, Beethoven, il a écrit sa 5e symphonie, donc elle a été créée de son vivant. Et donc, la création mondiale, ça veut dire quand on joue, quand les musiciens ont par première fois sur le pupitre les partitions et qu'on l'entend pour la première fois.
Il a fallu éditer les partitions, j'imagine, ou pas?
Alors justement, le petit-fils, c'est un retraité, ancien directeur de conservatoire, musicien, chef d'orchestre aussi. Et il a passé sa vie à éditer sa musique. Il a saisi tout à l'ordinateur. Et d'ailleurs, il dit, donc, ça fait 40 ans qu'il parle à tout le monde de cette musique et personne ne voulait l'entendre. C'est incroyable. Et donc là, on a fait la création mondiale. Donc, on a joué pour la première fois. J'ai amené des journalistes. Le public l'a accueilli, mais vraiment avec joie, disant, comment c'est possible qu'une telle perle existait et qu'on ne connaît pas? Et après, donc, j'ai joué la semaine dernière à Radio France avec l'Orchestre National de France, qui étaient aussi très surpris de ne pas avoir connu cette pièce du tout. Ils étaient mais ravis d'avoir découvert une perle patrimoine français de cette qualité. Et pour tout vous dire, à la fin du concert, c'était tellement prenant qu'il y a eu, il a compté lui, 17 secondes de silence. C'était pour dire combien le public était mais accroché. Et après, évidemment, les ovations vers la pièce.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Marina?
Ben, ça me fait penser à cette phrase que j'aime beaucoup, que Patrick Boucheron, l'historien, cite souvent, et il dit quelque chose comme ça, l'histoire, c'est se rappeler ce dont les hommes et les femmes sont capables. Et elle m'a beaucoup interpellée, cette phrase, parce que je me suis dit, bien sûr, selon moi en tout cas, il ne s'agit pas de détrôner les hommes et de faire tomber des statues. Je pense que ce soit Déborah ou moi, on a envie de garder, on n'a pas envie de choisir entre Robert et Clara Schumann. On veut garder Robert Schumann, mais on veut aussi élargir ce panthéon. Et moi, je trouve que c'est vraiment... En tout cas, moi, c'est cette démarche qui m'anime. L'autre phrase que j'aime beaucoup, qui dit « on est des nains sur des épaules de géants ». Si on arrive à voir plus loin, c'est parce qu'on se hisse sur ces épaules-là. Et je pense qu'on est des nains et des naines sur des épaules de géants et de géantes. Et moi, c'est exactement, je pense, cette même mission qui m'anime que Déborah. Et c'est ce que je mets dans la série d'été, donc sur France Musique, musicienne de légende. C'est raconter ces femmes exceptionnelles, la diversité de leur parcours. Parce que justement, on a aussi des femmes qui étaient hyper professionnalisées, d'autres pas du tout, qui ont lâché les choses pour fonder un foyer, par exemple. On a vraiment tous les cas possibles et on a besoin de cette inspiration. Donc, raconter les légendes de ces merveilleuses femmes.
Donc, rééquilibrer pour que la musique ressemble à la société.
Oui, surtout pour les compositrices, elles sont totalement invisibles des histoires, de tous les livres des histoires de la musique. Là, il vient d'avoir un livre qui vient de sortir où on les insère et vu comment, en fait, finalement, ils ont aussi ajouté le développement du langage. Et justement, pour citer Louise Farenc, en 1847, elle écrit « Un jour, les femmes créeront leur propre république musicale ». Mais moi, ce que je voulais, c'est, je pense que Marina, on se joint là-dessus, c'est qu'il faut une pluralité.
Évidemment.
Mais bien sûr qu'il faut cette pluralité. Et je pense que ça passe aussi dans le travail de l'imaginaire. Pour se dire quelle sera la prochaine grande chef d'orchestre ou la prochaine grande violoniste soliste, c'est important de savoir qu'on n'est pas, on est les premières, mais on n'est pas totalement les premières, on vient pas de nulle part. Et donc ça donne encore une puissance dans ses racines. En tout cas, moi, c'est aussi ce qui m'anime dans la série d'été et dans un livre qui est à venir très prochainement.
Et vous en avez tiré un livre d'ailleurs, Déborah Vanhaenen.
Oui, tout à fait. En mai dernier, le 6 mai, c'est sorti. Donc le livre s'appelle La symphonie oubliée et il raconte
magnifique livre.
Tout.
Ah!
Il raconte cette aventure de redécouverte de cette symphonie.
Et vous, votre livre, Marina ?
Apparaître fin octobre.
Qui s'appelle ?
Musicienne de légende.
En quelques mots, votre Graal à toutes les deux, c'est quoi ? Marina ? Un Stradivarius, c'est quoi ?
Oui, alors ça, un Stradivarius, avec plaisir, j'appelle tous les mécènes et généreux.
C'est un violon qui vaut extrêmement cher. Hein.
C'est un violon qui vaut extrêmement cher, qui en plus, si on pense au marché de l'art, est un investissement très, très intéressant parce que les courbes de ces marchés-là sont délirantes. Donc c'est absolument impossible, en fait, pour un musicien, pour un violoniste de nos jours, de s'acheter son Stradivarius, c'est quasiment impossible. Et pourtant, c'est des objets exceptionnels, mythiques, qui ont aussi été joués par des grands interprètes. Donc c'est pareil, s'inscrire dans une lignée. Donc évidemment, ça c'est un fantasme qui est très 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 fort. Mais toujours cette envie de transmettre encore plus cette musique classique avec mon violon, que ce soit dans les concerts, au micro ou avec la plume à la main.
Et le Stradivarius, quand on est chef d'orchestre, c'est quoi ?
C'est la Philharmonie de Berlin.
Alors, je vous le souhaite à toutes les deux. Avant de passer au portrait chinois, je vous propose d'écouter
le Liebeslied de Fritz Kreisler,
qui est extrait du disque de 18 miniatures pour violon de Marina Schisch et Aurélien Pontier. Alors, portrait chinois avec vous deux, si vous vous rencontriez vous-même à l'âge de 20 ans, qu'est-ce que la Marina dirait, la Marina de 20 ans dirait à la Marina Schisch d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elle vous dirait ?
Oh là là ! Elle lui dirait d'avoir confiance. Elle lui dirait de faire confiance.
Et la Marina de 20 ans qui dit à la Marina d'aujourd'hui ?
Bien joué. Non, parce que en fait, c'est marrant, ça rejoint le point de départ de notre échange. Quand on regarde certains événements de sa vie, on se dit, on a pris la tangente, on a fait une sortie de route, c'est une fracture. Quand je suis partie à Taïwan, c'était un pari délirant. Ça pouvait même être vu comme quelque chose de presque suicidaire. Et après coup, je me suis rendu compte que des fois, il faut tout casser pour construire.
Et vous, Déborah, qu'est-ce qu'elle vous dirait, la Déborah de 20 ans ?
Elle dirait, t'as vu, c'était possible.
Ce qui vous ressource ?
Moi, c'est la lecture, l'étude, les chorales des bacs.
Revenir à la musique, moi aussi, c'est quelque chose quand je vais dans la profondeur des partitions. C'est vrai que Bach est merveilleux. Sinon, le chocolat et le foot.
La discipline de vie qui vous sauve, vous avez toutes les deux... On ne le voit pas là, mais vous tenez toutes les deux très droites, vous avez une posture, vous m'avez parlé des chaises alors qu'on ne m'en a jamais parlé dans ce podcast. Quelle est votre discipline de vie à toutes les deux ?
Moi, j'ai besoin vraiment de ces chorales des bacs tous les jours. C'est ma façon de me connecter, de respirer. Même avant un concert, je me sois au piano, je fais un choral. Je sens la respiration et je sais que je suis maître de la situation.
Alors moi, je vais vous prendre à contre-pied. Ma discipline actuelle, c'est d'avoir moins de discipline. En fait, je me bats avec moi-même pour lâcher prise avec ce foutu perfectionnisme. Parce que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps, et d'ailleurs je l'ai dit, j'étais dans une intervention pour le groupe Natixis, le groupe féminin WIN, qui est vraiment très très motivant. Et on échangeait, et d'un coup j'ai sorti cette phrase, je ne sais pas d'où, en disant « la perfection, c'est l'obstacle ». Et ma discipline, c'est de me rappeler de mettre du plaisir dans ce que je fais, et d'arrêter avec cette foutue discipline.
De quoi n'avez-vous plus peur ?
Je n'ai plus peur d'affronter des pièces justement que j'ai jamais dirigées. Qui peut être flippant pour un chef quand on dirige pour la première fois, mais comme la symphonie, je l'ai fait, j'ai vraiment plus peur.
J'ai plus peur de déborder. Oui, c'est-à-dire je veux plus rentrer dans les cases. Du coup, ça soulage, ça commence à soulager énormément.
Votre mantra à toutes les deux.
C'est musical alors. Oh, grosse libre.
Ça veut dire
c'est
quoi ?
Juste le début. Ou grande amour.
Amour, ouais.
Qui parle bien sûr des dieux. C'est un début d'un choral de Bach que je joue tous les jours.
Parce que vous savez chanter en plus.
Non.
Marina ?
Je crois que c'est chiche, mon mantra. C'est évident.
Merci Déborah Wallmann. Merci Marina Chiche. Merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. Un immense merci aussi à Dimitri Mayer et Pauline Lagache. Merci à Zaya Cassel et à toute l'équipe des Échos pour l'organisation. Si vous avez aimé ce podcast, je vous remercie de le préciser avec un 5 étoiles. Cela nous aidera à continuer sur cette voie. Merci pour vos commentaires que j'ai hâte de lire. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast « Elles ont osé » avec les Échos. D'ici là, gardons précieusement en nous cette citation de Goethe qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast. « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. »
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com, code PROGRAM.